Donc on passe à la deuxième partie. L'intervention de Laura sur les aspects plus techniques, plus pratiques. Orléans est toujours là. Ça bouge un petit peu en haut de l'écran.
Ah. Ah. Merci.
On ne voit que les pieds des chaises, hein, c'est exprès.
Bah oui. On n'arrive pas à régler la caméra.
Il faut régler les chaises. Hein.
Oui.
C'est plus rapide.
Oui aussi.
Ah oui, je n'avais pas vu cette.
Ah oui, c'est... Oh, j'adore ça.
Essayez de ne pas bouger trop l'ordinateur.
Vous n'avez pas de questions?
Ici, non.
Non.
Bon. Attends.
Tout est clair.
Très bien.
Oh, vous êtes discret.
Oui.
On va continuer, donc je vais vous détailler un petit peu la structure d'un fichier TEI, puis on finira par des exemples plus précis, un peu appliqués. Donc la structure d'un fichier TEI, c'est ça, comme le disait Elena juste avant, donc on a un élément TEI racine, qui vous explique en gros où vous vous trouvez dans un fichier TEI. Puis ensuite, vous allez avoir deux éléments principaux contenus à l'intérieur, donc le TEI header, qui est utilisé pour les métadonnées, et l'élément texte qui contient le texte que vous allez encoder. Et à l'intérieur de cet élément texte, vous avez encore des enfants, donc le front, le body, le back. Le front va vous servir donc à tout ce qui va précéder votre texte. Donc en général, on a des pièces préliminaires. Dans les textes anciens, on a des privilèges, des dédicaces. Aujourd'hui, on peut encore avoir la table des matières. Voilà, une petite introduction, tout ça va aller dans le front, la page du titre également, puis ensuite va commencer le corps de votre texte, donc dans body, et enfin, si vous avez par exemple un index qui termine votre texte, vous le mettrez dans l'élément back. C'est la structure globale d'un fichier TEI. Jusqu'ici ça va, c'est bon.
Alors, si je peux ajouter une toute petite chose, ça vous démontre comme quand la TEI a été inventée dans le 86, on avait l'idée de la numérisation des livres comme l'utilisation de TEI. Donc l'idée c'était que tous les livres du monde qui étaient faits comme ça, il y avait des pages préliminaires, il y avait des appendices à la fin, il y avait un texte au centre, devront être encodés et devenir numérisés. Et donc, c'est la chose que la TEI va aller supporter, de le faire proprement. Donc, toutes les autres utilisations de la TEI qui n'ont rien à faire avec le livre imprimé n'étaient pas pensées au moment, à ce moment-là. Donc, elles sont arrivées après. Donc, la conception de la TEI comme un livre virtuel. Ça, c'est la raison qu'on a front, body and back. OK? Donc, c'est la raison de la structuration.
Oui, c'est quand vous êtes mis à penser, non pas en tant que texte, mais en tant que document.
Ouais. Donc, c'était incroyable, incroyable. C'était un peu intéressant de penser qu'au moment qu'ils ont pensé à la numération des livres, des documents, ils ont pensé de les numériser comme texte et pas comme document. OK? Ça, c'est la question. Et puis après, on a pensé, OK, on peut numériser les documents comme documents. Donc, c'est l'idée, normalement, ce n'était pas pour produire des textes en TEI qui sont born digital, ce n'était pas ça l'idée, mais c'est l'idée de numériser des éditions, des textes qui étaient faits à l'imprimé et on va les numériser. Donc, l'idée de produire des éditions numériques à partir des manuscrits, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Okay? Et même si on pensait à le faire, on pensait de structurer l'édition numérique comme si c'était imprimé. Donc, avec les matériels qui sont préliminaires et les matériels finaux. Okay? Donc, c'était, aujourd'hui, on l'appelle le paradigme de la page. Okay? Il y a un paradigme mental qu'on pense à toutes les éditions et les produits numériques comme si c'était des livres. Mais on est en train d'essayer de casser ces modèles-là et de faire des choses un peu plus intéressantes.
Ouais. Pardon, est-ce que la casse est importante
oui.
dans la TEI?
Oui, oui, les balises, les majuscules dans les noms ouais. des balises sont importants.
Ah, oui.
D'accord, parce qu'en HTML, par exemple, on peut pas être minuscule
oui,
ou majuscule.
C'est
ça,
ça c'est quelque chose qui vient du HTML. L'HTML nous permettait de faire majuscule, minuscule, c'est pas un problème. L'XML a réduit les possibilités offertes par les CML et les case sensitive. Okay. Donc, c'est absolument nécessaire de se suivre exactement la façon comme ça.
Alors justement, on voit que le TUI header a bien hérité de la logique du livre, parce qu'il y a à l'intérieur une balise qui est en général, enfin qui en général contient vraiment l'ensemble des données accrochées à votre document, c'est le file desk. File desk qui va décrire la source. C'est vrai que quand on a un document qui est natif TUI, le file desk va être très peu rempli, parce que en fait, votre document, vous commencez à le taper, c'est un nouveau document. Quand vous avez une logique de numérisation et puis ensuite donc de transcription du document, dans le file desk, vous allez rappeler toute l'origine de ce document, c'est-à-dire à quelle édition vous avez choisi et pourquoi. Vous allez pouvoir rappeler donc l'auteur originel du document et distinguer les différentes responsabilités donc par rapport à ce document ancien, mais aussi au document nouveau, c'est-à-dire l'auteur du document numérique. Voilà. Il va y avoir tout un ensemble d'éléments à l'intérieur du file desk qui vont décrire tout ça. Ensuite, vous avez l'encoding desk qui va s'occuper vraiment plus du fichier numérique et d'expliquer pourquoi vous avez utilisé tel balisage, comment vous avez décidé par exemple de développer toutes les abréviations parce que ça vous semblait plus utile. Voilà, c'est une description de la façon de présenter votre fichier. Le profile desk, c'est la description non bibliographique du texte source. Vous allez pouvoir détailler plus des choses qui concernent sa linguistique. Et enfin, le revision desk, c'est toute la vie de votre document, qui peut être détaillé ou non. Hein, ça, c'est en fonction des projets et de vos besoins. Et à l'intérieur, il va y avoir une balise qui est utilisée qui s'appelle change. Et à chaque fois, on va expliquer ce qu'on a modifié dans le document et pourquoi et quand et qui a apporté cette modification. Ensuite, il y a un élément dont on peut difficilement se passer, c'est l'élément div. L'élément division qui correspond donc à une structure logique du texte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du front, ou à l'intérieur du body, ou à l'intérieur du back, vous allez redécouper votre texte avec une structuration logique qui va être contenue dans ces divisions. Si votre texte est présenté avec des chapitres, chaque division va contenir un chapitre, par exemple. Si vous avez une pièce de théâtre, vous allez décider de faire des divisions par acte et à l'intérieur de faire des sous-divisions pour les scènes. Voilà, donc on garde bien, c'est pour ça qu'on appelle ça une structure logique, ça n'a rien à voir avec la forme du document. La division ne correspond pas à la page. Voilà en gros comment ça se présente. Donc là, un exemple à l'intérieur du body. Voilà, vous allez avoir donc des éléments contenus dans votre body, div, qui vont se suivre. Puis vous pourrez avoir des divisions à l'intérieur d'autres divisions. Si on rentre un peu plus, enfin si on va un peu plus près du texte, on va avoir l'élément paragraphe, comme en HTML pour ceux qui connaissent, donc l'élément, la balise P, qui va encoder le paragraphe. Donc à l'intérieur de vos divisions, en général, vous avez plusieurs balises P pour chaque paragraphe de texte. Là, deux éléments vides dont vous parlez, Elena, tout à l'heure, qui servent habituellement. Si vous souhaitez marquer les sauts de page, vous utiliserez l'élément page break ou PB. Vous vous souvenez avec ce slash à la fin de l'élément, en fait, qui veut dire que la balise s'ouvre et se ferme immédiatement, donc qu'elle est vide. Et pourquoi, en fait, cet élément-là est vide ? C'est parce que, comme le disait Elena, vous pouvez avoir donc des paragraphes de texte qui se poursuivent sur une ou plusieurs pages, mais vos sauts de page, eux, vont être contenus dans ce paragraphe-là. Donc, si vous aviez mis un élément page contenant, vous auriez eu un chevauchement entre votre paragraphe et la page. Donc c'est un élément vide. Pareil pour l'élément ligne, line break. On n'est pas obligé alors, d'utiliser, de marquer chaque ligne de son document. Tout dépend du projet. Du projet dans lequel on travaille, mais voilà, par exemple, aux bibliothèques virtuelles humanistes, on essaye de rendre le document, enfin de faire un encodage TUI au plus proche du document ancien. Donc on respecte le lignage, par exemple. Alors là, je vous parle des... En fait, j'introduis des éléments qui vont, qu'on va ensuite, enfin, où on va ensuite les utiliser dans l'exercice. C'est pour ça que je vous parle de la note. La note qu'on peut donc, là utiliser dans... c'est un exemple qui provient du texte ancien, mais on peut très bien aussi avoir des notes de bas de page. Et l'utilisation de cet élément donc, est assez simple. C'est-à-dire qu'on insère l'élément note à l'endroit où le signé de la note va s'insérer. C'est pas la logique, on ne place pas la note à l'endroit où on veut qu'elle s'affiche sur la page web ou sur la page imprimée. On l'insère là où le signé va être mis, le petit 1, le petit 2 qui va renvoyer à votre note de bas de page. Voilà. C'est une petite façon de voir les choses qui est un peu différente justement. Enfin non, c'est pas forcément différent d'ailleurs quand vous utilisez Word. Vous insérez bien la note à l'endroit où vous souhaitez qu'elle s'insère. Certes, vous allez la taper en bas de page, mais il y a un lien en fait. Il y a bien une balise en fait qui exprime ce lien derrière. Alors là, vous êtes peu nombreux à avoir un ordinateur, donc je vais faire l'exercice directement pour vous montrer. Ceux qui ont un ordinateur, je vous invite à aller sur le site qui s'appelle TEI by Example. Noter mon accent anglais. Et
www.tiibyexample.com. Oui. On peut le regarder.
Oui, je vais. Je me rends tout de
suite. Donc, si vous avez un ordinateur, vous allez là. Donc, voilà l'adresse qui c'est là. www.tiibyexample.org. OK.
Si vous cherchez dans Google, vous allez tout de suite le trouver en premier résultat. Donc attends, je vais.
Un peu mieux.
Donc
c'est les projets. Il faut en zoomer, je pense, parce que c'est trop grand. C'est un projet qui a été créé pour aider les personnes qui vont s'apprendre. Tout seul les théories, donc il y a des tutoriels, quelque chose qui nous explique ce que c'est les théories, comment ça marche. Il y a des exemples, comme TI by example, normalement c'est pour voir des exemples de codage. Il y a des exercices, donc on peut tester notre compétence. Donc l'idée c'est de vous introduire à ce projet-là, c'est que si vous pensez que c'est intéressant, vous pouvez aller à la maison et essayer et continuer et voir si vous continuez à vous apprendre à utiliser les théories.
Voilà, okay. On a choisi en exemple certains modules, mais il y en a beaucoup plus sur le site qui sont là. Voilà, nous, on va vous montrer simplement Common Structure, Prose et Primary Sources. Mais,
peut-être.
toujours. Mais voilà, peut-être, oui, si on a le temps et si vous en avez aussi l'envie. Mais voilà, vous pourrez justement vous entraîner au niveau des métadonnées avec le TI Header. Parce qu'il y a un encodage assez précis. Et ce qui est bien dans cet outil, on va tout de suite aller le voir. Donc vous avez le contenu de l'exercice, en général un texte à encoder. Et ensuite, vous pouvez le copier dans un espace de travail. Et vous avez la possibilité, au fur et à mesure que vous ajoutez du balisage, de voir si c'est valide ou pas. Et alors par exemple, si j'ouvre une balise ici, là, l'idée, ça va être de replacer des paragraphes. Là, on voit. Je vais zoomer un peu parce que je pense qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà, j'ai ouvert une balise P. Et là, tout de suite, voilà, il me dit attention, vous avez ouvert une balise P, mais vous ne l'avez pas refermée. Donc, voilà, au fur et à mesure que vous allez baliser, vous pouvez vous reporter donc, à cette.
C'est un seul paragraphe, je pense.
Ouais.
À la fin, ici.
Ouais. Alors, je vais regarder l'original. Oui, c'est ça. Vous avez un seul paragraphe, donc facile. On ouvre une balise P, on ferme la balise. Normalement, en dessous, il est content. Voilà, c'est devenu vert. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la totalité, parce que là, on encode qu'un fragment. Et c'est pas un document TUI. Derrière, donc, il y a tout le document TUI dont on vous parlait, c'est-à-dire ce document qui commence par la balise TUI, avec le TUI header qui ici est vide. Il y a des balises à l'intérieur, mais il n'y a pas de texte. et puis la balise texte, la balise body, et directement mon paragraphe. Ici, pas besoin de division, on met juste un paragraphe de texte, donc on peut tout à fait mettre juste un paragraphe. Voilà. En général, quand on a un livre, on souhaite le structurer un peu plus finement que juste mettre des paragraphes les uns à la suite des autres. Mais c'est tout à fait possible pour écrire un article, par exemple, qui n'aurait qu'une seule partie. Alors, ensuite, on peut tout à fait... Alors, les abréviations, on ne l'a pas vu encore. Je vous parlais de la note de bas de page. Ici, j'ai une note de bas de page que j'aimerais insérer dans mon texte. Donc, je la copie. Et imaginons que je veuille l'insérer ici. Là, donc j'ai ouvert ma balise note, je l'ai accolée à l'endroit où je voulais insérer ma note, j'ai copié le contenu de ma note à l'intérieur et j'ai fermé. C'est-à-dire que vous avez donc une balise note qui se balade au milieu de votre paragraphe, qui n'apparaîtra pas là, enfin à moins que vous le vouliez, hein. Après c'est aussi l'affichage qui permet de savoir où vous voulez afficher la note, mais en général on ne veut pas qu'elle s'affiche directement. Donc vous posez là que vous mettrez donc une petite encre pour aller vers le bas de votre page ou en marge. Etc.
Ou bien avec la souris qu'on veut passer en dessous, s'ouvre quelque chose avec la note là,
voilà.
Ou les deux choses en même temps. Donc vraiment la flexibilité, par le fait qu'on la met là, on peut faire après ce que vous voulez.
Comme disait Elena, là vous savez déjà encoder, c'est-à-dire que si vous avez compris que votre balise, vous deviez la fermer, l'ouvrir, la fermer ensuite, et puis que vous n'aviez pas le droit au chevauchement, normalement vous devez vous en sortir. Alors, je reviens à ma présentation.
Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer, donc on peut
essayer
un peu des minutes pour voir si ça marche.
Si c'est rouge ou pas.
S'il y a quelque chose. Non, parce que ce que je dis tout le temps à mes étudiants est que l'XML est trop facile à comprendre et c'est pas facile à faire. Donc l'XML ça prend pas par les doigts, ça prend pas par les yeux, ça prend pas pour en allant dans une formation. Il faut le faire parce que c'est les concepts, c'est très facile. J'ai mis 10 minutes à les expliquer, mais à s'apprendre à le faire vraiment, ça prend beaucoup de temps. Parce que il faut, particulièrement pour les personnes qui viennent des sciences humaines, qui n'ont pas l'habitude à être concernées par des formalismes, donc l'espace, aller à la ligne, quand il faut aller à la ligne, mettre vraiment la balise exactement où il faut qu'il va, et la fermer tout le temps. Ça est vraiment facile, mais c'est question d'habitude. À penser XML, c'est vraiment plus compliqué qu'à comprendre XML. Parce que vraiment, les concepts sont très très faciles. Mais c'est une façon différente de penser et de travailler. Donc, il faut faire de l'exercice. Donc, si vous pensez d'avoir tout compris et aller à la maison, vous essayez, vous voulez tout c'est rouge, c'est parfaitement normal. Parce que vraiment, il faut faire, se donner la patience de s'entraîner. Parce que c'est comme une langue, quand on va à s'apprendre une langue étrangère, l'espagnol ou l'italien, si vous voulez. Et donc, vous avez le professeur qui vous dit, OK, ça c'est la façon qu'on dit, et puis il va à la maison, on fait un exercice, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir vu les éléments, quand ça marche, et le faire, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment quelque chose qui doit devenir automatique, un automatisme qu'il faut s'entraîner. Donc...
Alors j'en profite pour rappeler quand même l'existence des guidelines TUI en ligne. Donc vous avez des chapitres qui vous détaillent l'utilisation de certains modules et qui vous expliquent précisément justement comment vous allez utiliser telle balise. Par exemple, si, imaginons que vous souhaitiez encoder un texte poétique. Voilà, donc on va commencer par vous faire en général un exemple simple, et puis après les guidelines entrent dans des détails. Progressivement, vous pouvez donc avoir plusieurs exemples, et si jamais vous êtes intéressé par l'utilisation d'une balise en particulier, par exemple la balise césure, pouvez cliquer dessus et là vous avez une définition précise. On vous rappelle par quel élément peut être contenue cette valise, combien d'éléments, enfin quels éléments peuvent être contenus à l'intérieur de la valise. Et puis vous pouvez avoir accès aussi à l'ensemble des exemples qui sont présents dans les guidelines. C'est un outil vraiment indispensable quand on débute en TUI et même quand on fait de la TUI, même quand on commence à être expérimenté, on s'y réfère en permanence parce que justement on ne peut pas connaître les 514 éléments. Parfois on peut s'apercevoir que justement on utilisait un élément jusqu'alors d'une certaine manière et puis qu'en fait c'était pas exactement la bonne façon. Ça arrive souvent. Parce que justement, le nom était plaisant, on se disait tiens, je vais l'utiliser dans cet exemple, pour faire ça, et puis vous apercevez que c'est pas du tout ce qui est prescrit. Peut-être aussi parce que les usages ont changé, donc il faut mettre à jour vos données, votre façon d'encoder. Peut-être aussi parce que vous avez envie de l'afficher différemment, et même d'aller plus précisément dans vos données. Par exemple, vous pouvez avoir tout un pan linguistique d'un projet qui se développe. Et donc là, vous allez avoir envie d'encoder donc avec la balise Word, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est pour ça que vous vous référez au module précis qui décrira cet usage-là.
Si on s'est trompé dans l'utilisation d'une balise,
oui.
Pour prendre tout le texte.
Non, en général, il y a quand même des outils pour pouvoir remplacer automatiquement telle balise. Si c'est un remplacement simple.
C'est la même chose pour les attributs.
Oui.
Ouais.
Oui, enfin, oxygène, on essaiera de faire une petite démonstration rapide à la fin du séminaire. Oxygène est vraiment un outil, enfin un éditeur très complet qui permet de faire beaucoup de choses justement au niveau du rechercher remplacer. C'est pas exactement là comme dans les exemples. Par exemple, vous avez une coloration syntaxique, c'est-à-dire que les balises vont ressortir, vous allez avoir une autocomplétion, vous pouvez taper le début d'une balise et puis vous allez avoir la liste des balises qui vont vous être proposées. C'est quand même un outil très très utile quand on encode. On peut tout à fait encoder dans un éditeur de texte simple, hein, mais...
Même en Word, si
voilà.
Vous voulez.
Mais par contre, là, vous n'allez pas avoir de vérification de cet encodage. Vous ne pouvez pas vous apercevoir tout de suite que c'est invalide, par exemple. Il faudra trouver un moyen de le vérifier.
Une question que je me suis posée par rapport à ça, dans la formation que j'avais faite, c'était est-ce que le passage à la ligne et le retrait dans les lignes de codage a un sens? Ou est-ce que c'est simplement pour faciliter la lecture du code?
C'est seulement pour faciliter la lecture du code.
D'accord.
C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable visuellement quand on encode directement d'avoir les sauts de ligne et d'avoir ce qu'on appelle l'indentation, c'est-à-dire
ouais.
qu'une balise contenue dans une autre va apparaître décalée vers la droite. Mais vous pourriez avoir tout sur une seule ligne. Ça aurait pour l'informatique la même signification. Par contre, pour vous, ce serait vraiment très très agréable.
Les problèmes, c'est une quelque chose qui est utile, mais c'est aussi problématique. Parce que j'ai calculé dans tout projet pour avoir un affichage qui est professionnel. Normalement, on utilise 20% de la production pour l'affichage à fixer l'espace, les espaces blanches.
Oui.
Pour mettre l'espace où il faut et pour ne pas mettre l'espace où il ne faut pas. Parce que là, l'indentation et le fait que XML complètement il ne considère pas l'espace blanc, plus un espace et 3000 espaces, c'est la même chose. Donc, c'est aller à la ligne où c'est comme un espace. Donc, il faut vraiment lui dire en tous les cas exactement quoi faire. Et parce qu'on est vraiment fastidieux dans les détails de l'espace. L'espace, pas après la virgule, mais depuis la virgule. L'espace après, avant les points virgule. Et voilà.
Oui,
donc il y a tous des rôles, des règles qui sont différents et ils changent de pays à pays. Donc, c'est la raison pour XML de ne pas faire une conception, une considération à ça et d'ignorer et de faire tout à fait d'effacer toutes les différences. Donc, il faut le réintroduire et repenser espace par espace. Normalement, 20% du temps que j'ai, mon expérience, c'est qu'on dépense 20% du temps pour mettre l'espace où il faut, ou ne pas canceller, effacer l'espace qui ne sont pas voulus. Donc c'est horrible. Mais oui, c'est utile, mais ça donne des problèmes aussi.
C'est vrai.
Tout, c'est la même chose. C'est tout utile et tout, ça donne des problèmes.
C'est vrai qu'une fois que vous avez indenté le document d'oxygène, par exemple, vous pouvez introduire un espace à la fin d'une balise, mais vous ne voyez plus, parce que vous avez fait un retour à la ligne. Sauf que entre la balise ouvrante et la balise fermante, vous avez en effet un espace qui va être géré d'une certaine ouais. façon, etc. En XSLT aussi, c'est assez, c'est assez ouais. pénible.
C'est pénible
à gérer, justement, parce que... Alors, l'indentation automatique dans XSLT, c'est pas toujours...
Mais les afficher et de les voir, donc, quand même. Comme sur Word, j'imagine. C'est avec les espèces...
Oui, on les voit, mais le problème, c'est comme les process. C'est donc, c'est pas comme on les voit avec les yeux, mais comme l'outil les voit.
Oui, on est d'accord.
Donc, c'est le problème qu'on voit exactement avec les yeux de l'outil.
Oui, oui, non, ce que je veux dire, c'est une possibilité d'afficher les caractères invisibles et tout ça, enfin...
Oui, oui, on peut l'afficher, c'est pas un problème. Oui. C'est un problème comme les considérer et quand ils sont utiles et avoir des règles précises pour lui dire ok, n'efface pas l'espace dans ces cas-là, mais efface l'espace dans ces cas-là. Et puis, ça, si les cas-là se passent après ça ou par avant de ça, donc il faut changer les routes, les règles. Donc, c'est. Voilà. Après.
Alors, un autre petit exemple de ce qu'on peut faire avec l'encodage. Et d'ailleurs, pas des moindres au niveau exemple, parce que c'est vraiment, je pense, une balise très, très, très intéressante dès qu'on fait de l'édition numérique, c'est de pouvoir justement proposer une version alternative d'un mot. Par exemple, si on a une coquille dans la version originale, on peut l'entourer d'une balise SIC et proposer une correction avec la balise CORE. Mais on ne perd pas, c'est la différence entre simplement remplacer ce mot par la correction. Là, on ne perd pas ni la version originale et on peut donc avoir la version corrigée. Et ensuite, à l'affichage, soit on peut voir les deux à la fois, soit on peut voir soit l'une, soit l'autre, ce qui permet d'avoir des sites très dynamiques. Que le texte soit beaucoup moins figé, justement, que sur le papier. Donc, ça, c'est... En TUI, ça s'exprime avec la balise Choice. Ça veut dire que vous allez faire un choix entre soit l'un, soit l'autre. À l'intérieur, soit la coquille, si vous proposez la correction. Orig et Reg, autre duo de balises qui va vous permettre donc là, de faire, de proposer la version, la forme originale d'un mot et sa version régularisée. Là, ce n'est pas une correction, c'est-à-dire que, par exemple, à la Renaissance, vous n'avez pas, vous avez une utilisation assez... il y a des règles, mais bon, visuellement, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que vous avez l'utilisation de U et de V ou de I et de J, et ça peut être l'un et l'autre dans tous les mots. Et quand vous voyez le terme, par exemple, livre, écrit L-I-U-R-E, voilà, pour tout de suite, pour un lecteur d'aujourd'hui, voilà, il lit lure. Il se dit, et il faut qu'intellectuellement ils se disent ah bah oui, ça doit être un V. Voilà. Là, avec cet encodage-là, on peut aussi proposer la version avec le V, donc régularisé. Ça peut servir dans beaucoup d'autres cas. Et il y a aussi donc la possibilité de désabréger les mots abrégés. Donc l'abréviation dans la balise ABR et la désabréviation de la balise EXPAN. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc là, j'ai des abréviations. Donc j'ai Mister abrégé MR. Si je veux proposer donc une version désabrégée, j'indique donc que MR. Est une abréviation. Et à la suite, je désabrège. Alors j'aurais pu faire l'inverse, hein. J'aurais pu mettre EXPAN avant et mon abréviation ensuite.
Ça, c'est pas important.
C'est pas important. Bon, c'est après, c'est encore une fois, peut-être que pour un encodeur, c'est plus évident de se dire l'abréviation puis des abréviations plutôt que l'inverse. Donc, mais c'est pas important pour au niveau encodage.
Une chose à comprendre, c'est que le TOEI ne force personne à faire rien. Donc, si vous voulez pas dans vos abréviations, vous ne faites pas. C'est pas pourquoi vous avez choisi d'utiliser la théorie que vous devez expandre vos abréviations. Ok, vous pouvez les expandre, mais sans balise, c'est vraiment parfaitement à vous. Il vous donne la possibilité de le faire si vous voulez le faire. Donc, c'est un outil, c'est une opportunité, c'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est la raison que quelquefois c'est compliqué à développer des outils qui utilisent le théorie parce que la flexibilité est laissée et les niveaux, les couches de codage sont laissées aux chercheurs de décider quoi vraiment c'est important, qu'est-ce qui n'est pas important et qu'est-ce qui va servir pour la recherche qu'il va faire et qu'est-ce qui n'est pas utile. Et donc, comme Laurent disait, l'interruption des lignes, le lignage du livre, ce n'est pas nécessaire de faire pour tous les projets, donc seulement les projets pour lesquels ça considéré important. Donc, c'est une question aussi qu'il y a appelée théorie. Théorie, ça veut dire quelquefois très peu. Donc, il y a un élément théorie qui commence et qui termine, et c'est la chose qu'on sait, OK, ça ne change jamais. Mais après ça, il y a vraiment peu. Il y a une théorie, TI Ether, qui est toujours là, et même texte, ce n'est pas nécessaire qu'il est toujours là. Donc, il y a vraiment une flexibilité qui est grande. Qui c'est une bon et mauvais, en même temps, comme presque tout, dans la vie. Comme le chocolat. Bon. Un peu de chocolat, c'est très bon, trop de chocolat, c'est pas très bon. Donc, c'est la même chose.
C'est bon?
Oui,
ça va ou pas de questions?
Si. Est-ce que n'importe quelle balise peut être auto-fermante? Est-ce que c'est correct au niveau du texte?
Oui, non. Ok. Il y a des.
Enfin, je veux dire qu'on peut, par exemple, un ABBR, qu'on le ferme comme ça, qu'elle soit vide. Quoi.
Oui, on peut.
Il y a des éléments qui sont forcément vides et des éléments qui ont.
Enfin, est-ce que les éléments qui sont normalement pas vides,
oui, j'ai compris. La réponse est ni. On peut dire ni en français.
Comment?
Ni.
Oui.
C'est si et non. Donc, ça dépend. Donc, il y a un formalisme qui contrôle comment on utilise les éléments, qui cherche dans la théorie et fait une correspondance dans le codage. Tu sais, OK. Tous les éléments qui ont été utilisés dans ces fichiers ici correspondent aux théories et sont utilisés proprement. Ce formalisme est appelé un schéma. Et le schéma au schema. Et ce schéma-là a la possibilité de contrôler un certain niveau de détails. Okay? Puis après, il y a un autre formalisme qui on peut utiliser ou pas. Donc normalement, Oxygène utilise les schémas tout le temps et contrôle que les éléments se soient utilisés proprement. Et en ce cas-là, on peut fermer tous les éléments, faire le vide, même s'ils ont un contenu qui est recommandé par la théorie. Okay? Parce qu'il y a des éléments qui ont un contenu recommandé ou obligatoire. Donc, mais il y a des autres éléments qui, même si on n'a pas un contenu seulement recommandé et pas obligatoire, on peut le faire devenir obligatoire. Il y a le second formalisme qui s'appelle schematron, qu'on peut habiliter ou pas. Donc, il y a un second niveau qui contrôle, par exemple, que si on a utilisé un élément non, ici, il faut après deux éléments utiliser un autre élément qui s'appelle bonjour. Ok? Donc, il contrôle des choses à un niveau de consistance et de régularité. Donc, celui-là, il y a des cas pour lesquels les schémas disent que c'est parfaitement possible d'utiliser un élément vide de le faire vide, et d'autres cas, que ce schématron nous dit, non, 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 il faut un contenu. Donc, ça dépend. Mais, par exemple, dans le, si on peut regarder le TI by example, l'exemple, quand on a la TI complète, dans la validation finale, ici, vous voyez ici qu'il y a le TI hybride, qu'il y a des éléments qui sont vides. OK? Donc, title, normalement, a un contenu, il est utilisé d'une façon vide, là, et ce n'est pas un problème. C'est parfaitement... C'est vert, donc ça marche. Mais title statement, les éléments titre, title qui est au-dedans, est obligatoire. Donc, si on met l'élément title statement comme vide, ça va être une erreur. Parce qu'il y a obligatoirement, il faut mettre quelque chose dedans. La même chose pour source desk. On ne peut pas la faire vide, il faut mettre quelque chose. Même si c'est un élément vide, mais P, c'est obligatoire. Donc, il y a des éléments qu'on peut payer. Normalement, un paragraphe, c'est pas vide. Hein? Il y a quelque chose dedans. Mais on peut le faire vite parce qu'on ne peut pas contrôler qu'il y a au moins une lettre. Les validateurs ne peuvent pas contrôler ces niveaux de détails. Mais on peut dire que la description d'une source, c'est obligatoire et quelque chose, il faut lui mettre. Okay? Donc, il y a des cas où on peut... Le contenu, c'est obligatoire. OK? Donc, ça dépend.
Ça dépend de la grammaire.
La grammaire, il y a... C'est normalement, ces choses-là sont obligatoires. Choice, par exemple, c'est l'élément qu'ils viennent de parler. Ils disent qu'il faut au moins avoir un autre élément, un choice.
Pas mettre un choice.
Et voilà, c'est parce que c'est logique. Normalement, ces rules, ces règles qui sont là, ils sont là pour, parce que sont logiques, pour aider de faire un codage qui est logique. Donc, si on utilise choice, il faut au moins avoir quelque chose au-dedans. Autrefois, ça ne vaut pas la peine. OK?
Alors, ça, c'est fait. Alors, pour aller un peu plus en détail dans la division. Vous avez une balise que j'ai oublié d'indenter sur la droite, mais donc aide qui est contenue dans la division et qui est le titre donc de cette partie de votre texte. Bon, c'est pas un élément obligatoire, on peut avoir une partie qui n'a pas de titre. S'il y a un titre, on le mettra dans la balise aide. Là, vous avez un saut de page, ensuite un paragraphe, et puis là, c'était pour vous rappeler qu'un paragraphe pouvait se continuer sur plusieurs pages, donc contenir un page break, donc cette balise vide qui permet donc d'éviter de faire un saut de page sans qu'il y ait chevauchement.
Vous avez noté qu'il y avait une diapositive, qu'il y avait la balise title, titre.
Oui.
Donc on peut se demander pourquoi ici on l'appelle head. Donc, il y a deux éléments dans les théories pour les titres. Les titres d'une œuvre qu'on cite, on l'appelle title, et les titres d'une division, head, parce qu'il est au début. Donc, on a pensé qu'il s'agit de deux choses différentes, on l'appelle titre dans tous les cas. Quand on commence un chapitre, on sait chapitre 1, comme je me suis réveillée ce matin, et... C'est le roman de ma vie, donc voilà, ça c'est le titre de mon chapitre. Et puis après, je me suis réveillée ce matin en entendant la musique, c'était, je ne sais pas, Michael Jackson's Thriller. Okay? Thriller, ce serait un titre aussi. Mais on a pensé que la théorie pensait que ce sont deux choses différentes. Les titres de chapitres que je suis en train d'écrire et les titres de quelque chose que je cite. Donc, il y a deux balises séparées. Et title, c'est seulement pour les titres qui sont cités. Head, c'est le titre d'une section qu'on a en train d'écrire ou de transcrire. OK? Donc, c'est...
Pardon. Voilà, par exemple, le titre d'un chapitre dans le Pentagone. Je suis je fais honneur à ma maison, hein, je mets des exemples des bibliothèques virtuelles humanistes. Et donc voilà, on peut, alors là j'ai fait un petit exemple avec des attributs donc sur ma division, parce qu'une div un peu voilà, sans attributs c'est un petit peu triste, donc on a aussi la possibilité donc, de numéroter ces divisions pour exprimer ce qu'on a ici dans cette chaîne de caractères mais qui ne peut pas être comprise par un ordinateur, donc chapitre J, donc ce qui veut dire chapitre 1, ici voilà je le formalise au niveau TUI en disant c'est ma division numéro 1 et c'est un chapitre. Voilà, et là j'ai donc un titre, j'ai choisi de garder, de conserver donc le lignage de ce titre, j'ai mis des line breaks devant chaque ligne pour faire des retours à la ligne, et puis ensuite bah voilà, j'ai le début du chapitre qui commence avec un paragraphe, et voilà, tout le chapitre sera contenu dans plusieurs paragraphes en général, ou un seul paragraphe si le chapitre ne comporte qu'un seul paragraphe. Est-ce que ça va au niveau voilà, intérêt des attributs, par exemple ? Alors, pour encoder une liste, tout simplement encore, parce que je vais vous faire un petit exemple, une petite manipulation qui va nécessiter cet encodage, voilà pourquoi je vous présente ces balises-là. Donc c'est le même principe qu'en HTML. Donc vous avez une balise qui débute la liste, et puis à l'intérieur, chaque entrée de la liste, donc avec item. Vous pouvez avoir aussi je ne l'ai pas mis là, des entêtes aux listes avec label, c'est ça ? Avec label. Par exemple, parce que je trouve pas d'exemple de liste avec des titres, mais
les courses. Certains,
oui, mes courses, ouais. Et puis après une autre liste derrière, voilà, mes loisirs, mais, etc. Voilà. On va reprendre le site TUI by Example. Donc là, j'ai sélectionné donc le module 3 dans exercice, voilà, qui est ici. Hop. Cette fois-ci, on a un texte un peu plus long. Vous avez même l'image de ce texte. Si je copie tout le contenu dans mon espace de travail, voilà, je me retrouve avec le texte transcrit. Donc voilà, on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu. Par exemple, là, c'est la page 198. Je vais choisir en TUI de le mettre, par exemple, comme ça.
Guillemets.
Pardon, c'est très mal.
Non, là les guillemets regardent, oui. Qu'est-ce qu'il dit au but.
Ah oui. Alors si j'enlève, voilà, si j'oublie mon guillemet comme j'ai fait tout à l'heure, hop, voilà.
Normalement, une chose à comprendre, c'est que les messages d'erreur sont vraiment cryptiques.
Oui, c'est ça. On ne comprend pas trop qu'il manquait un guillemet, mais on comprend qu'il y a quand même un problème au niveau de l'attribut. C'est déjà
attribute
quand même...
Attribute name correctly associated with an element type PB must be followed by the equal. Mais equal était là.
Sauf que, oui, on a envie, voilà, on a envie de lui répondre, mais il est là.
Mais il a vraiment... mais bon. Il a eu des problèmes.
Voilà.
Et même, on regarde et peut-être...
Alors là, bien sûr, il y a toutes les autres erreurs, c'est-à-dire que là, il estime bah oui, qu'on a du texte brut, donc que je vous montre. Hop. Voilà. C'est-à-dire que j'ai du texte au milieu de mon body, mais sans balise autour. Donc il n'est pas du tout d'accord avec ça, c'est pas possible de taper directement du texte dans la balise body. Il faut soit, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, un paragraphe simple, soit des divisions avec des paragraphes à l'intérieur. Pareil, mettre un élément div tout seul avec du texte directement à l'intérieur, ça, ce sera toujours une erreur. Et on va...
Parce que body et div, ce sont des éléments structurels. Ils ne contiennent pas du texte, ils contiennent des autres éléments. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Les contenus des éléments peuvent être des autres éléments ou du texte, ou une mixture des deux. Et donc, body contient que des éléments et div contient que des éléments. Il ne peut pas contenir du texte directement. Donc, il faut des niveaux, des balises pour contenir le texte. Le niveau où le texte se trouve, c'est le niveau des paragraphes ou des vers qui s'appellent elle, qui s'appelle pas vers, qui s'appelle elle, ligne. Ce n'est pas la ligne qu'on va à la ligne, c'est la ligne des poésies, ok? Je sais. On se demande pourquoi, mais voilà. Même en anglais, c'est vers.
Vers, c'est un vers en français.
Ouais, donc, pour la raison qu'ils ont décidé de l'appeler elle, j'ai vraiment quelque chose que j'ai jamais compris.
Ça a induit des confusions.
Oui. Incroyable, incroyable. Mm-hmm. Et la personne qui a inventé elle, c'est dans le bureau proche de moi, et il a dit, on pensait que c'était une bonne idée à un moment. Okay.
Elle, c'est Line. Donc, voilà.
Oui, c'est Line, mais c'est vraiment...
Mais Line, c'est physique.
Oui, voilà. Mais il s'appelle verse aussi. Hein.
Ouais, ben oui,
ouais, verse, c'est mieux. Quand même.
Verse,
ouais,
même en anglais. Hein.
Oui, mais verse, c'est le nom de module. Hein. Enfin, ouais.
Oui, c'est ça. Voilà.
Donc, verse.
Bah oui.
Oui, ah c'est trop tard.
Là, je pense que c'est
trop tard. Ça va être compliqué, terrible.
Mais tout le monde utilise elle depuis.
Créer les nouvelles balises pour le codage documentaire, on avait besoin d'un élément pour marquer les lignes typographiques, et on l'appelle line, parce que vraiment, il avait la. Maintenant, il y a deux mots, line et elle. Et la confusion, c'est horrible parce que les personnes qui veulent faire de la poésie utilisent l'élément line et pas elle. Et les personnes qui veulent marquer les lignes de manuscrit utilisent elle et pas line. Donc c'est quelque chose de comme. Bon, ça c'est la raison que je disais, il faut lire et passer, faire confiance dans les noms des éléments. Les noms des éléments peuvent être vraiment quelque chose de problématique et dangereux. Donc, il faut vraiment tout le temps aller dans les guidelines et lire vraiment ce qui se passe. Tout le monde est là? On n'est pas perché?
Oui, okay. Ça va?
Okay.
Donc là, j'ai fermé mon paragraphe, puis j'ai inséré une note, parce que là, que je revienne à l'original. Vous avez donc là un petit signé, avec un appel de note, oui, je dis un signé en fait, c'est... pas du tout bon terme, donc un appel de notes avec donc cette note de bas de page. Comme tout à l'heure, j'ai inséré ma note à l'endroit où il y aura l'appel de notes. Je l'ai numéroté pour dire que c'était la note numéro 1. Copié le contenu de la note et j'ai fermé la note. Voilà. D'ailleurs, plus logiquement, voilà,
j'ai une question. J'aurais une question par rapport à ça. Quand on fait quand on se contente de numériser un document existant, et donc c'est très facile d'arriver à recréer les notes, éventuellement de rajouter des notes à nous en utilisant un autre système de numérotation, par exemple. Mais quand on fait un document digital native et qu'on fait un système de notes et que en fait on veut en supprimer une ou en rajouter une au tout début, on est obligé de refaire toute la numérotation à la main.
Ah oui, c'est vrai.
À ce moment-là, on les numérote pas à la main et on les traite. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais je ferai un petit traitement XSLT qui numérotera automatiquement chaque note dans mon document pour être sûr d'arriver, de numéroter correctement. Parce que c'est vrai, c'est pareil, on a beaucoup de choses comme ça qui se font automatiquement. Parce que quand on a des chapitres, des dizaines et des dizaines de chapitres et qu'on a le malheur d'en sauter un ou de se tromper dans la numérotation, surtout si on s'est trompé au début et qu'on a 130 chapitres,
numéroté.
Oui, donc il faut, à ce moment-là, il faut choisir un traitement automatique pour la numérotation.
Les ordinateurs sont bons à faire deux choses. L'une, c'est chercher. Ils sont beaucoup mieux que nous à chercher des séquences des lettres. Ils cherchent une façon que nous, on ne peut pas faire à la main, avec les yeux, on ne peut pas trouver aussi bien que les ordinateurs, et compter. C'est la deuxième chose qu'ils sont faire très, très bien. Donc, normalement, je n'essaie jamais de faire, moi, ce que l'ordinateur peut faire pour moi, mieux que moi. Donc, si on veut reproduire la notation qui est dans le document, donc les numéros, même s'il y a une erreur, c'est intéressant de relever qu'il y avait une erreur et tout ça. Donc, on utilise le numéro 1 parce qu'il était là. Mais si on est en train de produire quelque chose, on ne numérote jamais. Jamais. Comme la numération des vers automatiques, ça c'est quelque chose qui est vraiment... XSLT est vraiment beau à faire. Vraiment.
Je continue à placer des paragraphes.
Ça suffit.
Voilà. Hop. Et puis ici, donc là j'ai une nouvelle page, donc comme tout à l'heure, j'insérerai un page break. Vous avez un peu compris le principe?
Ok.
L'exemple de la liste.
Ouais. Non, ça marche. Je pense que ça suffit. On peut regarder l'exemple avec oxygène, peut-être.
Oui.
Alors, ici, dans les boutons verts. Les boutons verts, celui-là. Ah, voilà.
Voilà comment se présente l'encodage d'un texte. Alors, je vais vous montrer l'original. Hop, ça, vous pouvez voir. Donc, voilà l'original et voilà tout l'intérêt de transcrire des documents tels que celui-ci. Parce que, à moins d'être spécialiste, être très bon paléographe, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le déchiffrer. Et encore, on avait choisi un exemple qui pouvait être lisible. Bon, justement, pas.
C'est tout, tout est relatif.
Voilà, tout est relatif en fonction de votre parcours. Donc, il y a la transcription, et puis il y a eu tout l'enrichissement. Du texte, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se contenter de juste faire quelques paragraphes et puis de mettre la transcription à l'intérieur. Mais là, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait aussi faire tout un encodage sémantique. Vous voyez un petit peu le code ou je peux le grossir encore un peu, hein.
C'est un peu.
Ça va un peu mieux.
C'est très dense, hein. Donc peut-être tu peux cliquer ici un peu.
Essayer un peu, alors ça va faire un peu des choses un petit peu bizarres, mais donc là, par exemple, j'avais donc le nom d'une personne que j'ai entourée d'une balise name pour les noms propres. J'aurais pu aussi être encore plus précise et typer comme tout à l'heure, on va le faire. Voilà. Tout dépend du niveau de finesse que vous souhaitez.
Il y a aussi un balise qui s'appelle Pers Name.
Oui. Alors là, on avait choisi le schéma TUI Lite, donc qui fait déjà un petit travail pour ceux qui veulent débuter, c'est-à-dire que c'est un schéma qui présente un ensemble de balises restreintes qui sont les plus utilisées.
Ouais.
Alors, on ne sait pas forcément celles dont vous avez besoin. Mais
ils sont 113.
Voilà. Déjà comme.
Oui, déjà comme.
Oui, oui. Et donc et donc il n'y a pas PersName dans la TUI Lite, je crois, mais si vous voulez vraiment faire un balisage sémantique très fin, c'est vrai qu'on utilisera moins name, on utilisera les balises PersName, PlaceName, OrgName, donc voilà, nom de,
name,
pour les noms de lieux,
name.
Et à l'intérieur de PersName, voilà, surname,
GeogName.
On a et voilà, on peut. On n'en finit plus, mais c'est vraiment un travail très intéressant pour générer automatiquement des index, pour tous les projets autour de la géolocalisation actuellement, donc encoder les noms de lieux et surtout les normaliser, ça peut être vraiment très intéressant aussi. Et c'est voilà tout l'intérêt de l'encodage.
On a fait 500 éléments, on a vraiment une richesse des détails. Il y a raison.
Ouais. Voilà. Donc une date, par exemple, qui était donc, le 15e juin, tiers de juillet, etc. Et plus loin, j'avais mon année, quelque part. Et donc là, j'ai encodé la date en disant, voilà, c'est l'année 1557, mois de juin, jour 15. Donc à la norme internationale.
Ouais, américaine.
Oui, c'est ça. américaine.
Ouais.
Non, voilà. C'est la norme mondiale.
Ouais. C'est ISO.
Oui, voulu par. Voilà.
Américaine. Un petit peu, ça joue.
Voilà,
c'est américaine.
Ça joue beaucoup aujourd'hui dans les normes internationales. Voilà, là j'ai développé pas mal d'abréviations parce que c'est vrai que dans les manuscrits, là c'est un manuscrit de notaire, donc il y a beaucoup d'abréviations parce que ils écrivaient tellement par jour qu'au bout d'un moment tous les termes les plus communs, Audi, Aladite, c'était raccourci, donc on peut désabréger. Là, il y avait une petite liste à la fin. On peut encoder voilà, le fait que le document est signé, donc dans un élément signed. Et ici, donc un balisage qui sert beaucoup en transcription quand, par exemple, vous avez un mot que vous n'arrivez pas à déchiffrer, vous avez, vous n'êtes pas sûr de votre transcription, vous avez aussi une balise qui s'appelle Unclear et qui permet voilà, de dire bah, voilà, j'ai transcrit ça, mais je ne suis pas sûr de ce que c'est. Alors justement, on peut l'utiliser comme une balise vide. C'est-à-dire, on peut carrément laisser voilà, un unclear vide en disant bah, là, j'ai pas réussi à transcrire rien du tout. Bon, bah, là, soit parce que bah, vraiment vous ne déchiffrez pas, pour plein de raisons, le document. Alors, si le document est un peu endommagé, on peut aussi utiliser la balise damage. Mais ça tout dépendra du document original. Voilà, là, on a été, parce que c'est avec mon collègue qui est plus paléographe que moi. On a regardé ça pendant des heures et visiblement le prénom de cette dame est Arzène. Et on se dit qui s'appelait Arzène au XVe siècle, ça nous semble impossible, mais on lit A-R-Z-E-N. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre.
C'est un mot en vénitien, voilà.
Arzène. Donc on se dit, bon, donc, voilà, on n'est pas sûr. Donc on laisse, voilà, on laisse au lecteur le soin d'interpréter s'il a envie ou de se référer au document original justement pour aller regarder lui-même ce qu'il peut lire, etc.
Alors,
dans Oxygène, ce qui est très... alors oui, il faut dire qu'Oxygène est aussi donc, largement maintenu par la communauté TUI.
Non, pas directement.
Mais il y a quand même une collaboration.
Oxygène, oui, il y a une collaboration. Oxygène, c'est développé par une compagnie de Bulgarie, qui est ThinkSoft, mais ils sont vraiment ouverts à les communautés d'usage, donc ils ont essayé de devenir en contre les requêtes de la communauté TUI. Donc il y a un set des outils que la TUI développe et Oxygène embed. Il put
les intègre.
Voilà, d'intègre. Je suis fatiguée maintenant, donc l'anglais ça arrive tout le temps. Donc ils intègrent les outils qui ont développé par la théorie. Ok, donc les schémas ils sont là, il y a des frameworks comme on l'appelle, et donc c'est possible de faire des choses avec Oxygène avec la théorie. Ok, mais c'est vraiment
des
choses complètement indépendantes. Mais il y a maintenant une chose automatique. Tout le temps qu'il y a une nouvelle version de la théorie, la prochaine fois que vous vous connectez avec Oxygène et vous êtes en ligne, automatiquement, la nouvelle version de la théorie est intégrée dans Oxygène. Donc, il y a un automatisme, une connexion qui vérifie toutes les fois que la version est la même. Et ce n'est pas la même, il télécharge la nouvelle version.
Et donc, c'est un logiciel libre ou pas?
Non.
C'est pas libre, c'est libre, ça dépend.
Comme c'est un propriétaire, il s'achète.
Donc c'est open source, mais il faut l'acheter.
C'est open source.
Mais il faut l'acheter. Ok. Donc on peut développer pour Oxygène, on peut le prendre et l'échanger, mais il faut l'acheter. Donc c'est open source, c'est pas la même chose. Être open source et être libre, on le paye.
Oui, quand je voulais dire libre, c'était gratuit.
Oui, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit.
C'est pas gratuit. Il y a une. Licence de 30 jours pour l'essayer et puis après et si on est membre de la TUI on a un coupon de discount donc là aussi on a la possibilité d'avoir une réduction de prix 10%.
Okay. Donc c'est pour ça que dans le module de scénario de transformation donc il y a vous pouvez vous-même paramétrer vos propres transformations. Mais il y a tout un paquet de transformations qui est disponible par défaut. Là, Oxygène a compris en fait grâce à mon balisage, enfin grâce à la balise TUI que je me trouvais j'avais fait un document TUI et donc il me propose les scénarios de transformation associés à la TUI. Par exemple, si j'ai envie de récupérer une sortie PDF, une sortie DocX et puis allez soyons fous ODT de mon document. Voilà, je peux appliquer plusieurs transformations sur mon encodage et de façon, alors qui a l'air magique, mais voilà, j'obtiens diverses sorties. Alors diverses sorties plus ou moins heureuses, vous allez le voir, de mon encodage. Donc, tout s'ouvre en même temps. Donc, un petit peu, hop, voilà. Donc, par exemple, sur Word, donc tout ce que j'ai encodé, voilà, avec une balise, donc qui signifie la suppression, donc la balise del, ça apparaît comme barré. Ça paraît être un usage assez répandu. Par exemple, mon onClear dont je vous parlais tout à l'heure, donc il a mis entre crochets un point d'interrogation derrière automatiquement. Donc ça, c'est pas voilà, c'est l'interprétation de mon encodage par une feuille de XSLT qui va transformer dans un autre format. Faut bien comprendre que c'est pas magique. C'est-à-dire que la personne qui a paramétré cette feuille de transformation pour Microsoft Word a décidé, par exemple, que la balise unclear allait être interprétée de cette façon-là. Ça pourrait être d'une façon différente. Voilà, on pourrait tout à fait modifier cette feuille de style et puis dire, bah non, j'ai pas envie qu'il y ait un crochet avec des pas, avec un point d'interrogation. Je veux que ça apparaisse en rouge. Voilà. On peut tout à fait le faire. Rien n'est figé complètement. C'est aussi, tout l'intérêt. C'est avec un même document avoir une visualisation qui peut changer du tout au tout en fonction de ce que vous souhaitez obtenir.
Pardon, en revanche, en fait, on peut aller dans un sens vers la TU, vers Word, mais pas du tout dans l'autre.
Oui,
à partir de ce Word-là, on peut entièrement revenir en arrière et retrouver toutes les balises.
Il y a des outils, on l'appelle Ox Garage.
Oui.
On peut aller.
On va montrer.
On va montrer.
Oui, c'est bien. C'est vrai que c'est. Alors, c'est un outil en ligne très utile. Ox Garage. Quand on ne veut pas partir de rien, justement, qu'on a un document Word qui structure déjà certaines choses. Donc, on peut passer par Ox Garage. Et donc là, il y a plusieurs formats d'entrée. Donc, si je choisis ce document, on va faire exactement dans l'autre sens. Donc, mon document DocX, voilà, il me propose plusieurs conversions. Si je veux revenir, j'ai perdu la TUI.
C'est ça.
C'est en bas.
Voilà. TUI P5. Donc, je choisis mon fichier. Convertir, c'est... celui-là. Hein? Ça, je voulais faire. Voilà, donc là, j'ai le document récupéré du Ox Garage. Et donc, voilà ce qu'il m'a récupéré.
C'est pas mal. Il a perdu la récolorisation.
Voilà, il a perdu certains éléments qu'il n'interprétait pas, lui, dans son document Word. Donc,
il n'est pas arrivé au Word.
Voilà, donc forcément. Là, par exemple, il a fait aussi un petit... c'est un encodage assez rigolo, mais bon, qu'on pourrait transformer assez facilement ensuite, donc faire un recherche remplacé. C'est qu'il a, voilà, il a compris que c'était du unclear, mais il a utilisé l'élément highlight qui permet en fait de faire certains stylages en TUI, donc de justement utiliser du gras, de l'italique, du souligné, etc.
C'est possible de le faire parce que Word a de l'XML. Donc on peut lire l'XML qui est dans Word et la transformer dans quelque chose que ce soit.
Oui.
Est-ce que par exemple vous conseilleriez à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout mais qui a déjà des documents de, plutôt que de commencer en brut directement dans Oxygène à taper le texte directement à partir de ses sources, de commencer par le taper avec un outil qu'il connaît déjà et de l'importer et ensuite de modifier.
Ça dépend de l'état des documents, ça dépend de l'âge des documents et tout ça. Normalement, c'est utile d'essayer voir la sortie. Donc, essayer 2-3 documents et voir s'ils sont bons. Si on les met tout le temps de corriger le codage qui vient de la conversion automatique, parce que vous pensez que Word n'est pas pensé sémantiquement à décrire des choses. Il voit date parce que la date était présente au début. Donc, il y a un codage dans Word qui a été préservé. Mais normalement, il ne va pas reconnaître les dates si on commence directement par Word. Donc, on ne peut pas ajouter de l'information. La conversion automatique peut seulement convertir ce qu'il trouve. Il trouve des paragraphes, il trouve des lignes, il trouve des cursives, mais il ne trouve pas des choses que peut-être on va ajouter. Donc, l'interprétation des deux langages peut être donnée des choses horribles, mais il peut être utile. Ça dépend de la complexité des documents, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, normalement, c'est utile de faire des tentatives et voir ce qui arrive. Et puis après, d'ajouter des balises. Normalement, je conseille d'essayer et voir les résultats. Et ça dépend vraiment de comment on fait nos propres Word. Si on a utilisé les styles de Word comme headings et voilà, ou pas. Et donc, si on a utilisé pour faire des titres, des sections, les gigs, grassetto, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça
les gras.
Les gras. Ok, si on utilise des gras pour faire des titres, on n'aura pas de div, on n'aura pas de head, parce qu'il ne reconnaît pas. Il reconnaît seulement que c'est un paragraphe, que c'est tout en gras. Ok, donc ça dépend vraiment du codage qui est de cette source. Ok, l'information ne peut pas être créée. Il converse ce qu'il trouve. Okay. Normalement, on peut penser que la logique de Word, la logique des TAI, ce sont complètement différents. L'un, c'est afficher les choses qui semblent bien, et l'autre, c'est de décrire ce que c'est. Et donc, normalement, les deux se parlent pas très bien. Mais pour des documents simples, ça marche très très bien, parce que la correction, c'est minimale. Et on peut la faire, quand tous les documents ont les mêmes problèmes, on peut faire une transformation dans tous les corpus une fois, et donc ça va être vraiment facile. So, vraiment, ça dépend.
Donc si dans la chaîne, on passe par une autorisation avant, à la fin, on doit arriver à quelque chose qui doit quand même truffer l'erreur.
Ouais.
Oui, on peut arriver.
Ouais. Oui, non, j'ai à répondre oui, parce que ça
sans
dépend.
Sans voir le document.
Sans voir des documents, il faut essayer. Normalement, quand on parle, l'expérience nous dit que rien qui semble, toutes les choses qui semblent simples, ne sont pas simples. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas parfaitement bien. Donc, il faut regarder. Peut-être que ça marche très bien. Peut-être qu'il faut. Donc, tous les projets, normalement, c'est de trouver la dimension qui est correcte pour le travail, la façon de faire l'input data qui marche mieux pour eux. Parce que peut-être que c'est plus lourd la conversion après, et donc ça ne vaut pas la peine. Ça dépend.
Et puis, il faut aussi se documenter sur ce qui est fait par les autres équipes. Parce que parfois, il y a des chaînes de production qui sont mises en place, et que je pense à la Maison des sciences de l'homme de Caen.
Ouais.
On a une chaîne de production justement qui utilise OpenOffice pour saisir le texte et avec au moyen d'un stylage vraiment très précis, d'obtenir un encodage qui est assez idéal. Et donc c'est pour ça, il ne faut pas... Enfin, quand on part de zéro, il faut aussi faire un petit tour d'horizon et voir s'il ne peut pas avoir une collaboration, une aide extérieure pour s'inspirer de ce qui est déjà fait plutôt que de réinventer la roue à chaque fois. Et c'est vrai qu'il faut tester plusieurs façons de faire pour voir comment on obtient le résultat le meilleur.
Enfin, la QI a presque 30 années d'expérience de travail dans le numérique. Donc, dans la communauté QI, il y a vraiment beaucoup d'expérience, des outils qui ont été déjà développés. Donc, c'est aussi intéressant de demander dans la communauté. Tout ça, c'est la raison que les listes de mails sont vraiment utiles, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui ont été développées par part de personnes. Les Ox Garage, c'est un outil qui a été développé à Oxford, et c'est pour tout. Ils ont fait pour faire les exercices, pour essayer si c'est possible à faire. Et ça marche. Donc, ça marche jusqu'à là, justement.
Alors, il existe une base de données qui regroupe tous les textes sur lesquels il y a eu ce genre de travail, ou un début de
liste
Il y a de la liste utile qui, il y a un TI Wiki, on peut regarder, où il y a les personnes qui font le développement de quelques outils pour la TI, qui sont invitées d'ajouter leur travail là, donc on peut les trouver. Il y a un special interest group pour les outils, qui s'appelle Tools, donc les conveneurs, le président c'est Serge Hayden, qui est à Lyon, et qui est les personnes qui collectent les expériences les développées pour la théorie. Donc il y a un support pour ça. Oui.
Voilà. Par exemple le wiki du SIG.
Oui. Il y a la liste de tous les tools, les outils qui ont été développés. Donc c'est vraiment difficile de trouver l'outil qui c'est magiquement marche très bien pour notre projet. Mais si on a un peu d'expérience de changer de toutes petites choses, il peut être utilisé, c'est un point de départ pour beaucoup de chaînes de production.
On a terminé ? Voilà, oui, juste montrer voilà, comment on peut aussi obtenir une sortie tout à fait différente. Alors avec une feuille de style, donc là la feuille de style qu'on utilise au BVH, donc Renaissance, voilà, qui propose exactement le même texte mais avec un affichage différent. Donc, par exemple là au survol vous avez donc la forme originale qui peut apparaître d'un mot qui a été corrigé. Enfin, là, c'est développé.
Les balises qui sont utilisées pour l'affichage de ce texte, est-ce que ce sont c'est du balisage HTML ou c'est le XML, donc la TUI d'origine ?
Alors, HTML.
Là, c'est HTML. Mais c'est vrai qu'on peut aussi...
On peut
tout à fait, avec CSS, afficher directement du XML dans un navigateur. Et il y a un outil qui s'appelle TUI Boilerplate, qui permet justement de faire ce genre de transformation.
Et si je peux avoir la vidéo, je vais
vous dire. Je veux dire sans
transformer.
Sans transformer.
Ouais. Ouais. J'ai fait exactement ça, les mêmes documents. Je l'ai affiché avec cet outil. Oui, j'ai travaillé
toujours
ce soir.
C'est très bon.
Voilà. Celui-là, c'est les outils qui s'appellent TI Boilerplate. Et j'ai pris les mêmes exercices que présentait Laurent et je l'ai affiché directement. Celui-là, c'est du TOI. Okay? Et s'il y a l'image, c'est tout généré avec. Parce que c'est View Page Source, vous voyez que c'est du TOI.
Ah, bien.
Voilà. Okay? Donc, ce n'est pas transformé en HTML, c'est des théories qui sont simplement représentées comme ça.
C'est bien.
OK. Donc, ça, c'est un autre des outils qui est déjà présent, qui est déjà développé. Et ça, c'est l'exercice que j'étais en train de préparer pour mardi, pour la formation. Mm-hmm. On va travailler avec ça et on va changer les choses, les montrer différemment. Okay.
Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, je vois que vous êtes un peu abattu. J'espère pas dégoûté de la TUI. C'est pas le but.
Impressionné.
Donc, si vous êtes intéressé vraiment à comprendre quelque chose de la TUI, mon avis, c'est de se renseigner pour des formations.
Il vient de la faire.
Ok. Bon.
Oui, moi je viens de la faire.
Bah, très bien.
L'initiation avec Lou, il y a deux semaines. Hein.
Voilà. Donc, ici, vous êtes vraiment dans une bonne situation parce qu'il y a toujours des formations qui sont organisées ici à Tours. Et donc, mais en France, en général, ce n'est pas très difficile de trouver une formation. Il y en a plusieurs. Lou, c'est vraiment
il en fait beaucoup.
Oui, evangelization. Donc, il est notre prophète. Il marche partout et il fait la formation. C'est la meilleure façon. Et puis après, pour s'apprendre la théorie, c'est le faire. Donc, c'est vraiment, il y a peu des possibilités de l'apprendre, aller 2 heures et même 2 jours, ou 4 jours, ou même 5 jours de formation. Mmh. Et aller à la maison, on pensait qu'on l'a appris, ça ne marche pas. C'est comme s'apprendre une langue étrangère. Mmh. Si on ne l'exerce pas, on ne l'apprend jamais. Donc, on ne peut pas aller dans le pays de la théorie pour la parler, mais on peut l'utiliser et aller en ligne où il y a une très communauté très vivante de la théorie. Mm. Et donc, voilà.
Donc, c'est vrai qu'à Tours, il y a un stage d'initiation, c'est pour le Master Pro. Il y a le stage SUFCO d'initiation aussi qui a lieu en gros en octobre. Ça fait la 4e année déjà qu'on le fait. Et puis l'année dernière, on a fait un stage TEI niveau 2, niveau avancé avec les collègues linguistes. Et là, justement, le nouveau directeur du consortium Corpus Oro m'a sollicité pour qu'on relance. On n'est pas obligé d'en faire tous les ans. Mais c'est vrai qu'un niveau 2, c'est bien aussi. Pour le perfectionnement dans les outils. Et donc on va voir si on peut en organiser un à la fin de l'année 2014, par exemple, enfin, au cours de l'année. Puis stage XSLT pour les mordus, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin. On y pense aussi, mais on n'a pas le temps là, de mettre en place avant la fin de l'année 2013. Mais Sébastien Ratz à Oxford est tout à fait partant pour venir faire une semaine de formation sur XSLT. Alors il y a des stages de TEI à Oxford l'été. Si on veut passer une semaine du mois d'août à ne faire que ça, c'est
juillet.
C'est juillet, bon, c'est moins terrible. Alors, mais c'est techniquement quand même bien avancé. Enfin,
c'est bien avancé. Normalement,
voilà. C'est pas un débutant. Quoi.
Non, c'est pas un niveau débutant. Normalement, on s'apprend le début de l'XSLT quelque part, et puis on va là et on s'apprend vraiment très bon. J'ai envoyé mes étudiants après, ils ont l'XSLT avec moi.
Ils avaient déjà une année de cours avec toi.
Oui.
Oui, c'est
et
ça.
Et puis après, ils sont allés, ils sont revenus, ils sont beaucoup mieux que moi. Bon. Et ils font des choses incroyables. Donc, bon. C'est vraiment quelque chose pour s'apprendre très bien. Bon.
Alors, justement, les consortiums peuvent financer ce type de formation qui est importante aussi pour la transmission d'expertise de l'un à l'autre.
Voilà, s'il y a d'autres.
Alors, il y a la TEI, il y a la MEI.
MEI, oui.
MEI, ouais. Donc
pour la musique.
Voilà, t'en as pas parlé. Pour la musique, il prend beaucoup de. Il va y avoir un colloque dans peu de temps.
Oui, oui. Ils ont eu des colloques l'année passée et oui. il y aura une autre cette année-là. Donc, ils travaillent avec les mêmes principes d'encodage qui s'approprié pour les textes. Ils ont appliqué à la musique et donc ils sont en train de faire des choses vraiment intéressantes. Ils ont développé un TI boilerplate pour la musique, on peut afficher la musique comme ça. Donc c'est vraiment c'est en train de faire des choses vraiment intéressantes. Il y a les Allemands qui travaillent très bien là, les Américaines et même ici. Il y a beaucoup de travail qui se passe aussi en France sur la MEI et en Suisse. Donc, c'est vraiment une initiative internationale qui est en train de prendre beaucoup d'espace.
Bien. Il y a des réactions, des questions à Orléans? Toujours
non,
là?
Non.
Oui? Non? Pas de questions. Vous l'utilisez, Flora, la TEI, dans les corpus linguistiques?
On ne l'utilise pas encore au LLN, mais je l'ai utilisé à l'IMIS, on l'utilisait. Pour le projet Termite de terminologie d'indexation, on utilisait la TEI.
Ouais, j'ai vu aussi qu'on pouvait exporter les notices de HAL, les notices bibliographiques de HAL en TEI. J'ai découvert ça aujourd'hui.
Oui, c'est possible.
Oui. Je ne sais pas, comme ça a planté, je ne sais pas quel est le résultat, mais c'est pas.
C'est pas pour la France.
Bon, et Léo, pas encore de TEI. Bon, c'est vrai que Léo ne travaille pas tellement sur le texte.
Je ne pense pas.
Non.
Ceci dit, sur les linguistes, j'ai pris connaissance d'un essai dans un encodage en XML-TEI de Corpus Oro qui avait été retranscrit et où ils essayaient de marquer les différents marqueurs linguistiques je ne sais pas du tout exactement quelles étaient, mais il faut savoir que ça existe, quoi.
Oui, moi j'ai vu des...
C'était un corpus de contes oraux de langue française, et c'est des Anglais, une université anglaise qui a développé ça.
Avoir effectivement vu des démonstrations pour le codage des corpus oraux.
Et donc, ils proposent également à chaque fois les textes aussi en format audio. Mmh.
Oui.
Donc, en format audio, en format XML, etc. Donc, ça peut intéresser les linguistes aussi.
Oui, oui, tout à fait. Très bien. Nous vous donnons rendez-vous la fois prochaine, prochain séminaire 12 décembre, c'est ça, c'est les CMS, donc un peu de Drupal,
WordPress
principalement, les deux, oui, c'est ça. Très bien, et merci encore à Elena. Et nous on se retrouve mardi pour les brouillons.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.